Croyants, ensemble vers la paix, une émission produite par Vivre Ensemble à Cannes. La charte de Vivre Ensemble à Cannes, en cours de rédaction, stipule que cette aventure de vivre ensemble est avant tout un chemin. Un chemin de foi, de transparence entre les participants, de vérité pour tous, un chemin intérieur pour chacun, de fraternité, de solidarité et d'espoir. En même temps qu'il est un chemin de rencontre et de joie. Ce sont ces derniers points que nous allons illustrer particulièrement aujourd'hui dans cette émission « Croyants, ensemble vers la paix ».
Vous écoutez RCF sur la Croisette sur 96.8.
Aujourd'hui, une rencontre intéressante à plusieurs titres. Le sous-titre de cette émission pourrait s'intituler « L'Église évangélique libre vue à travers l'expérience d'un de ses pasteurs ». Notre invité fait partie du comité des responsables religieux de Vivre Ensemble à Cannes. Il représente aujourd'hui l'Église évangélique libre, dont il est pasteur sur la ville de Cannes, et dont il fut le président en France jusqu'à une période récente. Il est marié à Christine, qui exerce la profession de sage-femme. Il est père d'une fille et de 3 garçons. Il se trouve dans une période charnière de sa vie pastorale et de sa vie personnelle dans ce temps où nous enregistrons cette émission. Et c'est ce qu'il va nous partager, ainsi que comment sa route avec le Vivre Ensemble à Cannes l'a, en quelque sorte et d'une certaine manière, préparé à cette nouvelle mission. C'est donc bien d'une rencontre qu'il s'agit aujourd'hui. Monsieur le pasteur Lacoste, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Pierre. On va s'appeler par nos prénoms. Le mode de relation à la radio, c'est le vouvoiement, même si on se tutoie tous dans la vraie vie, mais on va donc se vouvoyer. Pierre, c'est vraiment avec joie que nous vous accueillons pour cette émission. Et pour vous interroger avec moi, une personne de la communauté catholique à Cannes, membre fondateur du Vivre Ensemble à Cannes, qui a une grande expérience personnelle du dialogue interreligieux puisqu'elle participe aux rencontres de l'association Amitié judéo-chrétienne depuis une dizaine d'années. Véronique Francou, bonjour.
Bonjour.
Tout va bien jusqu'à présent.
Tout va bien jusqu'à présent.
Tout va bien. Une autre personne dans le studio et qui va vous interviewer, donc Pierre Lacoste. Elle est membre de la communauté protestante de Cannes, également membre fondateur du Vivre Ensemble à Cannes et membre de la commission de communication de notre association. Voilà, les présentations étant faites.
Florence
de Barros-Conti. Donc, merci, qui m'appuie gentiment sur la main pour me dire, mais vous ne me dites pas, vous ne dites pas mon nom. Alors, je le dis, Florence de Barros-Conti, donc, dont je viens de parler. Alors, les présentations étant faites, maintenant jusqu'au bout, et le décor planté, nous allons, dans quelques secondes, laisser la parole à Véronique Francou pour ses premières questions.
Alors Pierre, quand je vous ai croisé tout à l'heure en venant ici à notre émission, vous aviez un casque de motard et vous étiez habillé avec, avec du cuir et rien n'aurait pu me faire penser que vous étiez pasteur. Vous m'avez dit pourtant que vous étiez pasteur depuis 25 ans. Alors la question que je vous pose, elle est toute simple. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir pasteur de l'Église évangélique ?
Si vous m'aviez rencontré avec une robe pastorale, et puis, est-ce que vous auriez pensé quoi ? Que vous alliez passer quel genre de moment en fait ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le chemin que vous avez parcouru pour venir jusqu'ici, et pas seulement jusqu'ici à Nice, mais jusqu'à votre vocation de pasteur évangélique.
Ça, c'est une question immense, parce que la question de la vocation renvoie à son histoire personnelle, à sa jeunesse aussi, puisque ça fait quand même 25 ans que j'exerce cette profession, ce métier, cette vocation. Et donc, en quelques mots comme ça, je serais tenté de dire simplement que je me suis laissé emporter cette conviction qui est venue d'elle-même, qui s'est imposée. Je ne sais pas comment dire, là les mots deviennent un peu infirmes pour traduire ce registre vocationnel, mais je me suis laissé emporter, c'est un petit peu ma devise, quoi. Se laisser emporter par ce souffle qui me fait rencontrer non seulement la parole de Dieu en premier, que à laquelle je consacre mon temps, ma réflexion, ma vie de pasteur. Les pasteurs, c'est d'abord des hommes, des femmes de la parole. Et puis aussi rencontrer des personnes, des enfants, des gens, des vieillards qui sont pour moi à chaque fois l'occasion d'une aventure humaine extraordinaire dans ce cadre particulier qu'est l'accueil pastoral, l'écoute pastorale.
C'est ça. Avant de venir sur Cannes, vous nous avez parlé tout à l'heure d'une expérience, donc d'une quinzaine d'années. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé.
Ah mais j'ai déjà oublié ce que je vous ai dit, aidez-moi.
Tout à l'heure vous nous aviez dit que vous aviez fait une expérience, je pense de 15 années, dans le sud-ouest.
Ah voilà, d'accord, voilà. J'ai été effectivement pasteur 14 ans dans le sud-ouest de la France, dans une petite ville béarnaise qui s'appelle Orthez, qui est plus célèbre pour ses exploits au basket que pour... Que pour le protestantisme. Enfin bon, c'est, c'est comme ça. Et c'est quand même un fief protestant. Jeanne d'Albret, la reine, était elle-même donc béarnaise. Donc il y a une empreinte profonde du protestantisme, ce merveilleux pays, où j'ai appris l'être et le faire du pasteur au quotidien. Voilà.
Vous étiez déjà marié à l'époque avec Christine, je crois. Vous l'avez rencontré.
Oui, on s'est marié jeune.
Avant d'être pasteur.
Nous sommes arrivés ensemble, et même pendant les études. Nous sommes mariés pendant les études. Donc c'est quelque chose c'est un projet qui s'est travaillé ensemble. Elle aurait dû être là d'ailleurs, mais voilà.
Elle est avec nous par le cœur.
J'espère.
Tout à l'heure, vous nous avez dit aussi que être pasteur, être aussi père de famille, puisque je crois que vous avez 4 enfants.
C'est juste.
Et être donc marié, c'était tout un. Alors racontez-nous un petit peu comment tout ça arrive à se mixer.
C'est souvent la question que les frères catholiques, surtout les prêtres, me posent. Pour eux, nous représentons les pasteurs un peu une énigme. Comment parvenons-nous à concilier ces engagements-là, celui d'une famille,
pour les prêtres aussi,
pour les laïcs. Et je crois que on peut facilement lever le problème en disant que nous n'exerçons pas les mêmes métiers. Ça ressemble, nous sommes responsables religieux, ça se ressemble de l'extérieur. Mm-hmm. Vous avez la
parole en commun aussi.
Nous avons un travail sur la parole, nous sommes souvent représentants de nos communautés respectives, nous avons fait des études théologiques, enfin il y a plein de points communs, c'est certain. Mais le ministère n'est pas le même. Et donc le pasteur est avant tout un enseignant. C'est quelqu'un qui a fait des études de théologie, qui est d'un gradé universitaire, et qui, à ce titre-là, est invité, choisi par les communautés, à venir enseigner la parole. Donc on est plus assimilable dans la fonction elle-même à un travail d'enseignant, de prof, mais prof ça convient pas non plus, parce qu'on n'a pas des élèves devant nous, mais d'enseignant, qu'à un travail de prêtre qui est quand même... du côté du sacré et qui officie, qui représente le divin dans l'Église, d'une manière ou d'une autre. Mais encore, j'ai conscience que sur cette dernière affirmation, certains prêtres entreraient en dialogue assez vif avec moi, puisque certains d'entre eux ne se sentent pas dans cette représentation du divin. Mais bon, c'est un petit peu les clichés qu'on a. Nous sommes plutôt dans le monde, dans la vie, hommes et femmes mariés, père et mère de famille.
C'est ça, donc vous rentrez en contact peut-être plus facilement avec aussi des hommes et des femmes.
Là encore,
différemment.
Différemment. Plus facilement, plutôt. Je ne crois pas.
Différemment.
Parce que, c'est souvent ce qu'on entend dire. Vous, les prêtres, vous n'êtes pas mariés, qu'est-ce que vous pouvez savoir et dire de la vie de couple, des questions diverses liées à la vie de famille, etc. Je crois que il existe bien des prêtres qui sont compétents, parce qu'ils ont une écoute profonde de la vie et des familles, et que à force d'écouter, à force de et en plus avec leur positionnement un peu extérieur, ils ont un point de vue très intéressant, mais certains d'entre eux, d'autres n'y comprennent rien. Mais comme les pasteurs, selon leur expérience de vie et selon leur lecture et leur écoute de la vie, du monde, sont développer des aptitudes pour comprendre, pour décoder les choses.
C'est ça.
Mais sortant
des clichés, crois, et des a priori. Oui, oui.
En tout cas, ça peut cohabiter. Ça,
absolument.
Dans un déploiement de
je cache pas. Je cache pas qu'il y a certains moments où c'est tendu au niveau de la gestion de l'emploi du temps, de la disponibilité, et de surtout quand tes enfants étaient plus petits. Mais aujourd'hui, les choses sont vécues différemment, et je suis très très heureux, et en tant que père et en tant que pasteur.
Alors, vous avez aussi une autre corde à votre arc que je ne connaissais pas, mais dont vous nous avez parlé tout à l'heure avant l'émission, c'est la musique. Parlez-nous de la musique et du témoignage. Vous nous avez dit que c'était une façon pour vous de témoigner.
Oui, c'est je suis chrétien avant tout, et je suis projeté par ma foi dans la vie de tous les jours, et il n'y a pas de rupture entre la vie profane et la vie religieuse, le dimanche et le reste de la semaine, le plaisir et le fait d'être vivant, c'est ça être chrétien. Oui. Et donc, tout jeune, j'avais déjà développé un certain goût pour la musique blues, rock. Et donc, une fois devenu pasteur, j'ai posé bien des interrogations à mes premiers paroissiens qui se demandaient bien quel oiseau ils avaient attrapé là. Mais c'était pour moi une impossibilité que de séparer les domaines.
Au fond, la foi ne vous permet que d'être davantage vous-même, ou de rester en tout cas.
Oui, c'est une belle formule. Ouais, je suis bien d'accord.
Donc, par la musique aussi, vous amenez ce témoignage, et vous arrivez avec vos paroissiens aussi à faire passer donc ce témoignage par la musique.
Oui, oui, on a organisé plusieurs concerts, on a fait des petits événements, des choses comme ça qui autour de la musique avec d'autres groupes. J'ai constitué en arrivant à Cannes un groupe qui s'appelle Pierre et les Loups, et qui a duré pendant pratiquement 11 ans, pendant que je suis resté ici, toute la durée de mon ministère ici.
Magnifique.
Oui. Et on est allé jouer dans des églises, ou dans la rue, ou dans des endroits moins recommandable, mais c'est une façon d'être chrétien partout.
Plus tout à fait. Et voilà, et puis vous êtes ouvert à tous finalement,
ouais.
Par la musique.
Et puis surtout, je me suis toujours refusé à justifier ma musique par le fait de chanter des choses pieuses. D'abord, c'est pas des choses pieuses, mais je veux dire, je joue de la musique parce que j'aime en faire.
Voilà. Tout à fait.
Avant tout.
RCF Côte d'Azur.
L'essentiel, tout près de chez vous, à Cannes, sur 96.8.
Alors, vous êtes pasteur, non pas de n'importe quelle église, mais de l'église évangélique libre. On sait que depuis quelques mois, donc les différentes assemblées protestantes se sont réunifiées et s'appellent l'église donc protestante unie de France, je crois. C'est bien ça?
Ce sont l'église luthérienne et l'église réformée de France qui se sont unies,
voilà.
pas toutes les assemblées protestantes.
Mais alors, quelle est la différence et pourquoi vous avez choisi l'église évangélique? Dites-nous.
Alors, il y a deux questions là.
Oui.
Si j'ai choisi l'église évangélique libre de France, moi-même venant à l'origine de l'église réformée de France, ayant fait toute ma formation d'enfant dans cette église-là, c'était pour des convictions théologiques. Les facultés de théologie enseignent, délivrent leur enseignement sur la base de leurs propres présupposés. C'est exactement comme en psychanalyse, où il y a des facs de psycho qui ont telle ouverture, telle école, ça. Et en théo,
je
c'est pareil.
Ça, oui.
Et donc, voilà, j'ai étudié dans une faculté évangélique dans la région parisienne. Et à la fin de mes études, j'ai fait le choix de rejoindre les églises libres. Parce qu'elles étaient des églises historiques du protestantisme. Elles étaient issues du protestantisme du début du 19e siècle.
Mmh.
Et à ce titre-là, elle restait aussi dans une dynamique d'église institutionnelle, d'église historique.
Oui,
dans leur organisation, leur structure.
Bon, c'est ça.
Ça correspondait pour moi donc à mon arrière-plan.
Oui.
Et elles avaient intégré ce revivalisme, cette fraîcheur et ce recentrement de la foi sur l'annonce de Jésus-Christ. Et à ce titre-là, j'ai fait mon choix, j'étais jeune, j'ai commencé le ministère à 25 ans, à 26 ans, et donc j'ai fait ce choix de changer d'église à cette époque-là.
C'est ça.
Voilà.
Et vous avez pas, vous avez jamais changé. Vous êtes toujours resté dans cette droite ligne de l'Église évangélique.
Ça fait 25 ans que j'exerce le ministère pastoral dans cette union d'églises-là, qui est une toute petite union, une cinquantaine d'églises en France, pas plus, qui est membre de la Fédération protestante de France, qui est d'ailleurs cofondatrice de la Fédération protestante de France avec les églises réformées de France.
Et est-ce que vous entretenez des contacts aussi avec les autres assemblées, les autres églises ?
Les églises libres de France sont par tradition en dialogue.
C'est ça.
En dialogue avec le maximum de chrétiens et au sein du protestantisme, d'un côté avec des églises historiques comme les réformés, qu'on appelle protestants unis aujourd'hui, de l'autre côté avec la mouvance évangélique.
C'est ça. Et donc, finalement, quand on lit cette déclaration que j'ai sous les yeux de l'Assemblée Générale, donc de la Fédération Protestante de France, on y retrouve non seulement une ouverture à la diversité, je dirais, des différentes assemblées protestantes, mais une ouverture extraordinaire aussi, qui ressemble tout à fait à ce que nous vivons dans le vivre ensemble à Cannes. C'est-à-dire non seulement une ouverture, donc, comme je disais, œcuménique, mais une ouverture aussi au judaïsme, je le vois, aussi aux échanges avec l'islam et finalement avec toutes les autres traditions religieuses et spiritualités.
Mais je crois qu'on a un petit glissement d'un coup là. Je vais juste apporter un éclaircissement parce que là vous citez un document qui a été approuvé par l'Assemblée Générale de la Fédération protestante de France.
J'avoue que je m'y perds un petit peu.
Il y a des bons protestants aussi qui s'y perdent, hein, je vous rassure. Mais j'étais en train de parler de l'Union des Églises évangéliques libres, qui n'a pas écrit ce texte, hein, qui l'a voté en tant que membre participant à l'Assemblée Générale, avec les autres. Donc ce texte-là, lui, est une émanation de la Fédération protestante.
Oui, mais vous vous inscrivez en tant qu'homme et pasteur, tout à fait, dans cette mouvance-là.
Oui, je l'ai voté.
Et vous allez avoir...
J'étais moi-même membre de l'Assemblée Générale qui a voté ce texte.
Vous allez avoir dans la deuxième partie de l'émission, dans quelques instants, tout loisir de développer cet aspect-là, justement.
Hein. Très bien.
RCF, Nice, Côte d'Azur.
J'ai parcouru les Seven Seas dans les années 80, à bord d'un navire en ruine, en fond de cale avec un mal de chien. J'ai joué ma vie sur une crise, comme le font souvent les gamins. Plus de temps à perdre dans cette famille, j'ai mis les bouts. J'ai mis le cap sur une terre promise, où coulait un vin qui chauffait mon sang. J'ai tout plaqué pour ces jolies filles, qui livrent leur corps mais pas leurs sentiments. J'ai tant donné à des amis de paille, moissonneurs de blé, assoiffés d'argent. J'ai tout donné. J'ai très loin, tout au fond de moi-même, une vérité en moi. son enfant. J'aurais renoncé à tous mes privilèges pour vivre chez lui comme les simples gens. J'ai écrit ces mots pour toi qui désespères. C'est lui qui te dit je t'aime mon enfant.
Un groupe dans lequel on retrouve notre invité aujourd'hui dans l'émission Croyant ensemble vers la paix, Pierre et les loups, délai de grâce avec la voix du pasteur Pierre Lacoste.
RCF,
l'essentiel.
RCF, Côte d'Azur, branchez-vous sur l'essentiel.
À Nice sur 96.6.
Voici donc la deuxième partie de Croyants ensemble vers la paix, émission animée aujourd'hui par Pierre Chevalet.
Nous sommes donc dans cette deuxième partie de l'émission Croyants ensemble vers la paix, où nous marchons pendant cette émission avec le pasteur Pierre Lacoste, qui nous a partagé un petit peu de son itinéraire. Et dans cette deuxième partie, nous voudrions, et la fin de la première partie a été un lien naturel et très aidant d'une certaine façon, entre votre propre ministère, votre propre implantation dans une cité, votre propre vie personnelle avec tous ses aspects, y compris musicaux, comme le soulignait sur lequel vous interrogez Véronique. Et ce que nous voudrions voir dans cette seconde partie, c'est deuxième partie, cette nouvelle mission vers laquelle vous partez, et peut-être en première partie, pendant quelques minutes, parler autour de votre expérience avec la réalité Vivre Ensemble à Cannes et cette mosaïque avec laquelle vous avez un petit peu cohabité pendant un an et demi, en tout cas avec laquelle vous avez marché, et pour vous interroger sur ce thème-là, donc Florence va prendre le relais.
Bonjour Pierre, merci d'être avec nous. Donc c'était très intéressant effectivement cette précision entre la Fédération Protestante Unie et donc l'Église Évangélique Libre. Pour vous, quel est maintenant votre parcours personnel? Qu'est-ce que pour vous la définition du vivre ensemble personnellement? Vous l'avez vécu au départ quand vous me l'aviez dit à reculons, et maintenant vous avez vécu quelque chose de très fort avec nous.
Oui, les choses se sont précisées chemin faisant. Je ne suis pas du genre à me fermer a priori. Donc, oui. Quand on m'invite, je viens. Je ne reviens pas forcément, mais je viens.
Vous êtes venu, oui.
Et là, je suis revenu à petits pas, c'est vrai. Je n'ai pas assisté à toutes les réunions et j'ai pris mon rythme personnel parce que certainement, je ne situais pas les rencontres du vivre ensemble qui ont un bon rythme. Hein, c'est une fois par mois. Oui. Enfin, il y a quand même.
C'est soutenu.
Je ne les situais pas tout à fait au rang de mes priorités, avec un planning, un agenda, comme tout le monde à gérer. Ces chemins faisant, je ne puis pas dire que c'est devenu la priorité des priorités. C'est devenu une composante de ma foi, de mes réflexions, de mes lectures. Je puis dire qu'il y a effectivement deux ans ou trois ans de cela, c'était tout à fait accessoire et anecdotique. Donc là, il y a eu effectivement un déplacement.
Passé à travers quoi précisément, Pierre? Ce déplacement, vous le situez comment? Comment ça s'est passé?
Je crois que je suis très sensible, comme bien des gens, je crois, à la façon dont les sujets sont traités par les médias. Et il m'a semblé que nous étions réellement en train de glisser dans ce traitement dramatique au possible des religions, de leur impossible cohabitation, de leurs extrémismes qui sont plus que majoritaires, ou en tout cas qui sont loin d'être la frange insignifiante des mouvements. Donc à écouter les médias, on se demande si nos églises ne sont pas, toutes nos églises et nos mosquées et nos synagogues ne sont pas peuplées de malades, quoi, qui sont là, prêts à en découdre. Et je me dis, mais là, on est en train de glisser. Il y a un traitement injuste, abusif. La moindre petite dérive, même grosse dérive, Mohamed Merah, bon, on peut en reparler, qui se produit devient un point de référence qu'on cite en disant voilà ce que c'est que l'islam en France, voilà ce que. Et je crois que là, il était temps que on commence notre petit travail de fourmi. Parce que c'est pas, faut pas se leurrer, c'est pas avec un vivre ensemble par-ci, un vivre ensemble par-là, que l'on va souffler sur. Non, on va petit à petit poser des signes qui interpelleront le public. Mais je crois qu'au départ, il y a une volonté de me rebiffer, de me rebeller avec vous contre un traitement injuste de ce que sont les religions en France.
C'est vrai.
Alors ça, c'est un point. Et puis, il y a également le fait de se trouver en fraternité avec des hommes et des femmes qui sont de confession, de religion, qui n'ont rien à voir avec la mienne, quelquefois un peu à voir, quelquefois pas du tout à voir, et de me dire, mais il s'agit de faire quoi ensemble? Là, je me la pose à chaque fois, cette question. Hein. J'ai pas vraiment réglé le problème, hein. Je me réinterroge, vous non plus, à chaque fois. Et il y a des certitudes maintenant, c'est-à-dire que nous pouvons travailler vraiment main dans la main à poser des signes de paix, de bonne entente, d'une fraternité généreuse, qui s'inscrit dans ce que Dieu veut pour tous les hommes. La vie, la donner comme un cadeau en abondance à tous, ça c'est notre héritage commun. Nous le recevons comme un véritable don du ciel. Mmh. Et puis après, nous pouvons donner les noms que nous voulons à ce ciel, à cette verticalité ou cette horizontalité. Je ne sais pas ce que diront les bouddhistes sur l'origine des choses.
On en vient justement. Voilà. Vous me disiez la dernière fois au téléphone que cette différence qui était utile était également très enrichissante.
Elle est très enrichissante parce qu'il y a dans le dialogue, il se joue, le dialogue est la clé pour sortir des caricatures que l'on se fait les uns des autres. Mmh. Sans dialogue, on ne peut pas sortir de nos caricatures. On reste dans l'approximation. Le regard de l'autre étant approximatif, on ne peut pas sortir. C'est une sorte de prison. Mais dès que le dialogue s'installe entre deux personnes, que l'étonnement est suscité, mmh, que la question arrive, eh bien, nous sortons de nos prisons. Nous changeons de regard. Et là, c'est plus la même chose.
C'est ce que vous avez vécu, changer de regard.
C'est ce que j'ai vécu.
On continue. Merci encore, Pierre, d'être avec nous. Donc, ce cheminement, maintenant, il va beaucoup plus loin, puisque vous allez traverser la Méditerranée et vous nous amenez dans un pays dont tout le monde rêve, moi particulièrement, qui aime la cuisine libanaise, vous nous amenez au Liban. Donc, dites-nous un peu plus sur cette nouvelle destination. Est-ce que c'est une conviction, c'est un choix? On vous l'a imposé, vous l'avez choisi?
On n'impose rien aux pasteurs, d'ailleurs, dans leur mutation, leur changement. Ça fait partie aussi de nos caractéristiques.
Comment ça se passe d'ailleurs? Qui décide quoi là dans une mutation comme ça?
Eh bien, les assemblées, les églises sont elles-mêmes des assemblées, associations cultuelles, loi 1905, qui élisent leurs pasteurs. Et donc, c'est
Envoyez un CV, vous envoyez.
On pourrait dire si nous sommes intéressés par une église, on pourrait effectivement. La plupart du temps, c'est une église est intéressée par notre profil.
Et
c'est elle qui vous appelle.
C'est elle qui nous fait un appel du pied. Mais quelquefois, non. Alors, les pasteurs sont obligés. Il faut bien qu'ils trouvent un travail. Sont obligés de dire, j'existe. Appelez-moi. D'accord. Alors, il y a des rencontres qui se font. Voilà.
Vous avez décidé de partir au Liban.
C'était. Ça s'est fait un peu autrement. C'est-à-dire qu'au départ, nous avons été informés que du changement se profilait à l'horizon dans la paroisse protestante française, l'église protestante française de Beyrouth, et que d'ici quelques temps, ils allaient se mettre à chercher un pasteur. Et nous avons entendu ça avec mon épouse en nous disant, mais c'était tout à fait une blague entre nous, et pourquoi pas nous partir au Liban? Et puis on a oublié ça pendant quelques temps, peut-être une année, et on nous a appelés en disant, mais c'était pas pour rire. Est-ce que vous êtes intéressés? Il faudrait rencontrer la paroisse dans quelques temps. Si oui, dites-nous et on va s'y mettre. Et là, on s'est dit, oui.
Donc vous les avez rencontrés.
On est allé rencontrer cette paroisse. Hein. Voilà.
Et alors, l'accueil, les personnes?
Pour tout dire, c'était quand même très particulier parce que nous sommes arrivés la semaine du. Enfin, c'était le 17 octobre. Nous étions à Beyrouth ce vendredi-là, où il a explosé une bombe dans le quartier chrétien, et où il y a eu des morts, beaucoup de blessés, et surtout ce député, ce ministre, ex-ministre, qui a été tué dans un règlement de compte politique à la libanaise. Et donc on n'a pas pu voir grand monde parce que le dimanche matin où j'étais censé me présenter à cette paroisse qui allait m'accueillir, grand nombre des paroissiens étaient bloqués dans les n'avaient pas pu partir de chez eux, tout simplement. Les routes étaient coupées, tout était voilà, et beaucoup de gens très très en colère dans la rue. Enfin, c'était pas simple du tout. Enfin, Beyrouth nous a pas menti. Nous sommes allés une semaine là-bas, il s'est passé ça. Mais depuis, c'est très calme. Alors, nous avons des nouvelles de la paroisse parce que le pasteur qui est en poste actuellement nous envoie régulièrement des messages. Et nous avons hâte de la rencontrer. C'est une petite église où il y a des expatriés, des couples franco-libanais. Et là aussi, c'est très intéressant parce que nombre de Libanais sont venus en France étudier la médecine, l'architecture ou autre. En général, c'était les élites qui venaient chez nous. Mm-hmm. Ils sont repartis au pays avec une femme, une protestante.
Ah,
et oui, eux-mêmes étaient soit maronites, donc catholiques orientaux, soit même sunnites ou chiites. Et ce sont ces gens-là, ces couples mixtes, soit chrétiens, protestants catholiques, soit même islamo-chrétiens, qui fréquentent l'église pour une part. Donc vous voyez, je me sens projeté vers quelque chose qui s'annonce dans une certaine cohérence avec mon expérience ici de vivre ensemble.
Donc vous allez projeter peut-être un nouveau vivre ensemble à Cannes, mais cette fois-ci à Beyrouth.
Je crois que le vivre ensemble à Pâmes m'a pas attendu.
Il existait déjà.
Il existe depuis toujours, il est structurel au Liban. Et il y a une mosaïque religieuse qui existe depuis la nuit des temps dans cette partie du monde. C'est un endroit unique au monde. Citez-moi un autre endroit que le Liban où cohabite autant de dénominations chrétiennes,
musulmanes.
Et entre musulmans, il y a également les chiites et les sunnites. Voilà. Donc.
Magnifique. Hein.
Le Liban, dont Jean-Paul II disait qu'il était un message pour le monde, lorsqu'il était allé, disant que c'était un message parce que ça ne peut pas fonctionner normalement.
Oui.
À vue humaine, ça ne peut pas fonctionner. Et pourtant, ça marche.
C'est la preuve que ça marche.
Puisque vous citez Jean-Paul II, Pierre, il disait aussi le caractère unique de ce lieu, avec la cohabitation de toutes ces communautés. Il disait ce signe posé dans le monde, qu'est le Liban, et peut-être l'héritage d'un grand moment qui a été vécu entre le Liban et Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est venu évangéliser le Liban, puisqu'il est monté à Tyr et à Sidon, où il a rencontré cette fameuse syrophénicienne, qu'on appelait la cananéenne, selon les traductions, ou on dirait aujourd'hui la libanaise. Le Liban, le christianisme au Liban, c'est un christianisme de première main.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il fallait
quand même la classe, hein.
au moins sa présence à lui pour que ça fonctionne. Et c'est cette présence que vous allez poursuivre là-bas. En tout cas, et on vous souhaite pour les années qui viennent vraiment une très grande réussite dans votre ministère. Et on veut vous redire, Véronique,
merci.
Florence, merci pour votre présence, merci pour votre témoignage. Et
merci,
nous sommes vraiment heureux de vous avoir accueilli. Pour cette dernière émission de la saison 2012-2013. Voilà, nous sommes au terme de cette émission et nous ne voudrions pas la terminer après cette première année de partenariat avec RCF Côte d'Azur sans adresser des remerciements. Un premier remerciement à David Termat, son directeur, qui nous a ouvert avec tant de confiance et si généreusement son antenne au cours de cette année, riche d'enseignements. Et à José Garcia, également des remerciements, le réalisateur, dont la compétence et la patience sont venues bien des fois à notre secours. Nous espérons, en tout cas, au terme de cette saison, avoir su faire passer à l'antenne la confiance qui nous habite et notre enthousiasme pour cette intuition du vivre ensemble à Cannes et vous la communiquer un peu à vous, chers amis auditeurs. Je voudrais également adresser une pensée toute particulière et un merci tout particulier à quelqu'un qui se trouve au bout du monde en ce moment, Pauline Lussac. Pauline, celui-là que je vais y arriver. Et son mari Taïeb qui se trouve en train d'arpenter le centre de l'Inde dans le cadre du tour du monde qui les éloigne pendant quelques mois de la France. Sans Pauline, vraiment, cette première année n'aurait tout simplement pas pu exister. Donc Pauline, bonjour de RCF à Nice, de la part de chacun d'entre nous, si tu écoutes par podcast interposé. Et bonjour à toi Taïeb aussi, là où vous êtes. Chers amis, une date à retenir et des adresses à noter. Une date, le 29 septembre. Ce sera le troisième festival Vivre Ensemble à Cannes et sa traditionnelle marche sur la croisette dès 14h30. Des adresses que vous connaissez bien maintenant, www.vivreensembleacannes.org et www.facebook.com/vivreensembleacannes. Rejoignez-nous sur ces sites, sur ces médias, laissez vos messages, partagez-nous vos sentiments et nous vous souhaitons à tous un bon été en vous disant à l'année prochaine.